Nous sommes le mardi 2 avril et le gouvernement est sous pression. La raison, les mauvais chiffres du déficit révélés la semaine dernière. Non seulement les comptes sont dans le rouge, mais ils le sont plus que ce qui était prévu. Hein, 5,5% du PIB au lieu des 4,9% prévus pour le déficit. Et depuis la semaine dernière, autant le dire, c'est le festival. Il y a les oppositions d'un côté qui accusent le gouvernement de mentir, de cacher la gravité de la situation ou de présenter des budgets insincères. Les plus cléments dans l'opposition parlent d'incompétence, c'est dire. Et plus problématique encore pour Gabriel Attal et Bruno Le Maire, leurs propres troupes débordent d'idées pour résorber ce déficit, quitte à dépasser les lignes rouges fixées par le gouvernement. Impôts, chômage, déficit. Le gouvernement sous pression, c'est le nouvel épisode du service politique. Alexis m'accompagne dans cette confortable cabine d'enregistrement. Salut Alexis.
Salut Nella.
On retrouve à distance Anne qui doit être pas loin de Matignon, comme souvent c'est ça.
Exactement.
Anne.
Salut Nella, salut Alexis.
Et Perrine et à l'Assemblée nationale. Salut Perrine.
Salut à
ça
tous.
Va
salut à vous deux.
Ça va.
Dis-moi Perrine, toi t'es à l'Assemblée.
Oui.
Il y a un sujet qui a mis les députés en ébullition dès tôt ce matin. C'est la question des impôts. Est-ce qu'il faut taxer les plus riches ? Raconte-nous comment ça s'est passé aujourd'hui, ta journée dans les couloirs de l'Assemblée.
En fait, ça fait vraiment depuis la semaine dernière que c'est quelque chose qui occupe beaucoup l'esprit des députés. La nouveauté cette semaine, c'est que ce n'est plus que l'opposition qui s'est emparée de ce sujet. On a vu notamment l'interview de ce matin de Yaël Braun-Pivet qui remet une pièce dans la machine en expliquant qu'il faut que le partage soit plus équilibré, qu'il ne faut pas seulement taper sur les chômeurs, qu'il faut également essayer de taxer la fiscalité alors des rentes, on appelle ça au sein de la majorité, super profit, super dividende, on ne sait plus trop comment les appeler. Mais Yaël Braun-Pivet n'est pas la seule, il y a aussi des députés de la majorité comme Sacha Houlié, président de la commission des lois, qui demande à plus de justice sociale. Et ils ne sont pas les seuls. Ça, ce sont les deux voix que l'on entend qui portent, parce que c'est vrai que dans la majorité présidentielle, ce n'est pas vraiment la tradition de taper très fort du poing sur la table. Mais les députés que l'on croise ici, ils nous le disent, mezzo voce, mais ils nous le disent quand même, il faut faire attention à avoir de la justice sociale. Un député me le disait tout à l'heure, là, ce qu'on est en train de faire, ça va nous mener à la victoire du Rassemblement national. Donc attention, est-ce que ces députés vont être entendus ? Bah, pour l'instant, Gabriel Attal et Bruno Le Maire restaient plutôt inflexibles, même si Gabriel Attal, on va en reparler, hein, a donné un signe avec cette formation de task force. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici à l'Assemblée nationale, les députés de la majorité déjà sont assez en colère, et pas forcément l'aile gauche, hein, de ne pas avoir été mis au courant justement de ces fameux 10 milliards de déficit, enfin en tout cas d'économie qu'il fallait mettre en œuvre. Ils n'ont pas été plus informés que les députés de l'opposition, ils ont appris un peu tout ça par la presse, et ils n'ont pas été forcément plus favorables au fait de passer tout ça par décret, de ne pas passer par le Parlement par une loi de budget rectificatif. Donc déjà, ça commençait à grogner là-dessus. C'est-à-dire que les députés de la majorité, ils se sentent un petit peu dépossédés de leur pouvoir, ils n'ont pas voté le budget parce que tout est passé en 49-3, il n'y aura peut-être pas de budget rectificatif, ça passe par décret. Voilà. Donc déjà, ça tend un peu les rapports les uns avec les autres. Et puis maintenant, ils demandent plus de justice sociale. Anne va nous en parler. Gabriel Attal propose une task force. Alors, bien sûr, c'est vu comme une nouvelle réunion Théodule qui ne mènera à rien par les oppositions. Mais c'est vrai que, du coup, là, aujourd'hui, le Premier ministre doit quand même faire avec une majorité assez turbulente sur la question s'il veut la garder unie.
Mais tu sens que c'est un début de fronde ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller jusque-là dans la qualification de ce qui se passe dans la majorité, ou c'est peut-être un peu exagéré ?
Non, c'est exagéré parce que, si tu veux, le problème, c'est que on a souvent dit ça, enfin, j'ai entendu ça à chaque grosse loi récente, hein, la réforme des retraites, on savait qu'ils n'étaient pas tous alignés, la loi immigration, Dieu sait s'ils n'étaient pas tous alignés au sein de la majorité, mais vraiment, c'est pas la tradition de taper vraiment du poing sur la table. Là, le député d'aile gauche qui me disait tout à l'heure, tout ce qu'on va arriver à faire, c'est à faire passer le Rassemblement national, quand je lui demande, d'accord, mais alors vous faites quoi ? Il n'a pas la solution, il ne compte pas changer de groupe, il ne compte pas créer un groupe. Pour l'instant, on ne sent pas de mouvement vraiment de rébellion au sein de cette majorité. Mais on, comme le gouvernement est quand même sous une menace de motion de censure, on en reviendra peut-être par les Républicains, bon, bah, tout ça fait quand même, donne quand même une petite musique au sein de l'Assemblée nationale, pas forcément très favorable à la majorité. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la majorité, elle était peu présente dans cette réunion de groupe, les députés étaient peu présents, ils sont peu présents désormais aux questions de gouvernement pour soutenir leurs ministres, il y a peu d'applaudissements de soutien. Voilà, donc tout ça se délite un petit peu plutôt qu'une vraie fronde.
Forme de démobilisation. Anne, à l'instant, Perrine évoquait justement cette task force. Elle a été annoncée ce matin en réunion de groupe. Toi, tu as eu des échos. Oui. Comment ça s'est passé côté Premier ministre? Est-ce qu'on a eu le sentiment de faire face à une majorité turbulente? Est-ce que les échanges ont été polissés ou plutôt assez chauds?
Alors, en effet, comme le disait Perrine, ce n'est pas vraiment une grosse fronde dans le sens où on aurait le retour des frondeurs, par exemple, qui diraient si ça continue comme ça, oui, on changera de groupe ou alors on s'opposera frontalement dans les médias, publiquement. Tout ça reste quand même encore assez feutré, c'est plutôt en off. Donc ce sont des députés qui font sortir le fait qu'ils n'ont pas été contents pendant la réunion. Et d'ailleurs, à ce stade, la majorité, par les voix officielles de la majorité, démentent bien sûr qu'il y ait le moindre schisme, etc. Mais il y a eu quand même des mots assez forts dans cette réunion de groupe ce matin. Des députés, plutôt de l'aile gauche qui en sortaient, ont dit « attention à pas stigmatiser les chômeurs ». La réforme de l'assurance chômage, il y en a déjà eu deux. On en rajoute encore une. Et dans l'autre temps, on propose rien en face ou effectivement plutôt une piste de réflexion à cette heure, un comité de réflexion, un groupe de travail sur les rentes. Et ce qui les dérange, ces députés qui sont pas très contents et qui estiment que c'est pas très juste, c'est qu'effectivement tout ça est annoncé en même temps. Donc il y a la réforme de l'assurance chômage pour la partie hors entreprise, les Français, à qui on va prendre de l'argent, en tout cas à qui on va moins verser. Et de l'autre côté, ils estiment qu'on n'en fait pas assez côté entreprise, côté capital, pour reprendre des mots qui sont un peu théoriques, et que finalement tout ça est trop à droite, en réalité, pour le dire. Et donc, non, c'est pas la grande fronde. En revanche, Gabriel Attal prend soin maintenant, et son entourage aussi, de détacher les deux, justement pour qu'il n'y ait pas cet effet de comparaison en disant « on va prendre aux chômeurs, mais on prendra rien aux entreprises ». Donc ce qu'on dit du côté de Matignon là à 7h, c'est « oui, mais la réforme de l'assurance chômage, c'est pas une réforme pour faire des économies ». Et d'ailleurs, il y a eu un échange très vif ce matin entre le Premier ministre et Sacha Houlier à ce sujet. Gabriel Attal disant à Sacha Houlier, c'est pas une mesure, la réforme de l'assurance chômage, c'est pas une mesure d'économie, c'est une mesure d'incitation au retour à l'emploi. Comme si finalement il y avait la réforme de l'assurance chômage d'un côté et de l'autre la recherche de plus de recettes pour rééquilibrer les finances publiques. En réalité, ce qui leur déplaît à ces députés qui sont contre, c'est qu'ils estiment en effet que les deux sont liés et que la réforme de l'assurance chômage, c'est autant une mesure de rétablissement des finances publiques que les rentes. Et alors les rentes, qu'est-ce que c'est? On parle de rentes de situation. Ça rejoint un peu ce qu'avait dit Gabriel Attal lors du journal de 20h.
C'est les énergéticiens, en fond.
Par exemple, les énergéticiens, mais précise l'entourage du Premier ministre, certains proches du Premier ministre, il n'y a pas que ça. Parce que tout est sur la table, nous disent certains proches du Premier ministre, tout est sur la table. Et donc s'il faut un moment, peut-être que les collectivités territoriales, on pourrait leur demander... Dieu sait qu'elles n'ont pas tellement de rentes, mais côté rente en tout cas de situation, c'est-à-dire des vrais super profits, ça peut dépasser les énergéticiens. Quand on demande des précisions, c'est très prudent pour l'instant, on nous dit non, on verra, on va étudier avec les grandes filières quand on demande des précisions, on nous dit on va étudier ça avec les grandes corporations, on va étudier ça avec les grandes filières, on va voir, mais en tout cas, ils ne s'interdisent pas du tout d'aller beaucoup plus loin que les énergéticiens. La question, c'est de demander à toutes les entreprises qui font des super profits, au moment où le pays est très en difficulté, de mettre la main à la poche.
Mais tu sens que ça, c'est une vraie conviction du Premier ministre ou que c'est un peu pour faire retomber aussi la fièvre du côté de sa majorité?
J'ai l'impression que c'est une vraie conviction parce que Matignon a fait faire un sondage interne qui est très sévère vis-à-vis des prestations sociales qui sont accordées aux Français. Je lis toujours un peu les deux, réforme de l'assurance chômage et aussi la contribution demandée aux entreprises. Et si les Français sont de façon écrasante, majoritaire pour demander qu'on arrête un peu la gabegie, parce que c'est un mot qui a été utilisé ces derniers temps dans le débat public, des prestations sociales, ils demandent aussi, et de façon tout à fait écrasante aussi, qu'il y ait une contribution des grandes entreprises. Et Gabriel Attal sait bien que c'est une question aussi de consentement à l'impôt. C'est une question de consentement des Français à cet effort collectif demandé pour redresser les finances publiques. En clair, les Français sont d'accord pour dire on a l'inflation, il y en aura peut-être certains qui auront des hausses d'impôts, bref. Mais si jamais les plus riches ne payent pas, Gabriel Attal sait bien que le consentement à tout ce qui doit atterrir en juin, c'est-à-dire la nouvelle trajectoire des finances publiques pour rétablir le déficit, ça passera pas en clair si les plus riches, et notamment les entreprises les plus riches, ne mettent pas la main à la poche. Et il y a même eu évoqué dans les pistes l'IFI, c'est-à-dire ce qui est l'ISF d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière. L'idée de l'IFI, c'est de faire en sorte même d'intégrer dans cet effort collectif demandé aux Français les plus riches, donc non seulement les entreprises, mais aussi les Français qui ont des grandes fortunes personnelles et qui donc ne payent plus l'ISF puisqu'il a été supprimé, mais payent son successeur, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière. C'est encore une fois un sujet de consentement à l'effort général demandé aux Français pour rétablir les finances publiques. Et si jamais, effectivement, à un moment, ça va jusqu'à une taxation supplémentaire, à une hausse de l'IFI, il y a certains des proches du Premier ministre, en tout cas, qui considèrent que ça ramènerait un certain nombre de Français qui considèrent aussi que il faut que tout le monde fasse un effort. Ça les ramènerait dans le giron de la majorité. Et surtout, lancer ce débat-là à quelques jours, quelques semaines des élections européennes, ça pourrait être un bon coup politique.
Ce qui se raconte aussi beaucoup, Anne, dans la majorité, c'est que politiquement, il y a aussi un créneau à prendre pour un Gabriel Attal face à un Bruno Le Maire très inflexible sur non aux hausses d'impôts, non au creusement du déficit, on ne touche pas aux entreprises, etc. Et qui a peut-être matière aussi dans le positionnement pour un Premier ministre à faire jouer un peu plus sa fibre de gauche. J'ai été très frappée au cours d'un déjeuner ce midi avec un ministre de la liberté avec laquelle ce membre du gouvernement s'en prenait à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, en expliquant en somme que c'est, je cite, tout le capital politique de Bruno Le Maire qui est en train de s'évaporer, que c'est tout son bilan qui s'effondre. Tout ça, c'est des citations, hein, avec ce membre du gouvernement qui disait, en gros, il est là depuis 7 ans, il est comptable de la situation, il est un peu responsable, il peut pas se laver les mains et dire le déficit, c'est pas mon problème, etc. Donc ce qui est très intéressant aussi dans les prises de parole des uns et des autres, c'est cette espèce de bataille, j'ai l'impression de dire, de balancer un lieu commun, mais de fait, dans les échanges avec les responsables politiques, ça revient quand même très souvent à la question de 2027, et de comment on se place, comment on se démarque, comment on occupe un couloir qui n'a pas été occupé, et on voit que entre guillemets, celui qui va être dépeint comme étant le père la rigueur, un peu le tape dur, qui veut s'en prendre toujours au même, bah, en gros, c'est Bruno Le Maire. On essaye de lui coller cette espèce de sac à dos. Et Gabriel Attal, lui, fait les annonces, j'allais dire pas forcément plus sucrées, mais en tout cas, il fait les annonces qui sonnent bien comme il faut aux oreilles des classes moyennes, c'est-à-dire on fera quand même les 2 milliards d'allègements d'impôts pour ces classes-là. Il faut que le travail paye plus que l'inactivité, donc on fait aussi des mesures d'accompagnement du travail, et on laisse à Bruno Le Maire toutes les annonces des crédits qu'on coupe, etc. Je disais, il y a Alexis dans la cabine. Je t'ai pas encore posé de question, Alexis. Tu nous écoutais depuis tout à l'heure.
J'attendais mon tour.
Avec beaucoup d'intérêt. Non, mais Perrine l'évoquait un peu depuis l'Assemblée. En fait, ce qui met aussi la pression au gouvernement, c'est l'attitude des Républicains. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté sa majorité qui dit « Nous, on n'en veut plus et il faut rééquilibrer, vous êtes trop de droite. » Et puis de l'autre, il y a la droite qui dit « Attention, vous n'êtes pas assez sérieux. »
Nous n'allons pas refaire le film ici du rapport entre les Républicains, la majorité et le gouvernement. On sait, on en a beaucoup parlé dans ce podcast, à quel point ils peuvent être à la fois des alliés sur certains textes pour le gouvernement et au contraire, être parfois ceux qui font chuter le gouvernement sur certaines occasions. Et tout le sujet là, c'est qu'il y a cette menace qui revient beaucoup au sein des Républicains. Un certain nombre de personnalités chez LR m'en parlent assez régulièrement. Cette fois-ci, après 2 ans de cohabitation, j'allais dire,
parfois
compliquée, parfois d'hésitation, cette fois-ci, le moment de rebrandir sérieusement cette menace de censurer le gouvernement, de s'associer avec le Rassemblement National ou avec la NUPES à un moment donné pour faire tomber le gouvernement. Ça peut être cette année que ça se passe et ça peut être sur un texte budgétaire.
Éric... Ou pas, parce que s'il n'y a pas de texte budgétaire... Les Républicains disent on peut aussi faire une motion de censure.
Oui, oui, bien sûr. De toute façon, la motion de censure, là, elle est dans l'air. Ils ont l'impression que ça peut être cette année le moment où ils brandissent cette menace ultime et qu'ils la rendent concrète. Là, l'intérêt pour eux, c'était éventuellement de sanctionner cette dérive financière lors d'un texte budgétaire. Il y a cette envie, ce souhait qu'Éric Ciotti a exprimé. Il l'a dit dans une lettre qu'il a écrite à Gabriel Attal, le Premier ministre, ces dernières heures, il dit qu'il veut un texte budgétaire, un budget rectificatif qu'il doit passer d'ici à l'été. Ça, c'est toute la question qui est depuis plusieurs semaines dans les têtes du gouvernement. Est-ce qu'il faut continuer à faire des économies par voie réglementaire, c'est-à-dire sans avoir ce risque éventuellement de se retrouver avec une censure, ou est-ce qu'il faut éventuellement passer à l'Assemblée avec un texte, un budget rectificatif soumis au vote ? Ça serait donc prendre un risque pour le gouvernement, risque d'autant plus fort qu'il y a maintenant chez les Républicains un certain nombre de personnalités qui disent « c'est maintenant le moment de dire que ça suffit », auquel cas évidemment on rentrerait dans une période avec beaucoup d'inconnus.
Et toi tu sens qu'ils sont vraiment, que c'est pas que de la parlotte quoi, parce que ça a été évoqué par le passé la motion de censure sans forcément qu'elle aille au bout de sa démarche.
C'est vrai qu'on l'entendait régulièrement. Avec Perrine, on a eu l'occasion plusieurs fois d'en parler. C'était une menace qui revenait sur différents textes à différents moments. On se souvient bien de ce qui s'était passé l'année dernière au moment des retraites, avec cette fois-là un groupe extrêmement divisé. Moi, ce qui me marque depuis plusieurs mois, c'est que même si ça reste un parti politique qui est traversé par une crise profonde et qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la ligne, évidemment, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez ne sont pas exactement tous sur la même ligne. Mais là, ce qui me marque, c'est que sur cette question de la sanction du gouvernement, on commence à voir une ligne un peu commune. Oui. Ils n'ont pas tous les mêmes intérêts à moyen terme, mais là, ils se disent que ça peut être le moment de sanctionner le gouvernement, de enfin trouver cette occasion de se distinguer de la majorité. Alors, il y a deux limites à ça. D'abord, il y a la question des européennes qui arrivent. Est-ce qu'il y a le moment, le bon timing pour le faire ? On a du mal à imaginer que ça puisse arriver avant les européennes. Le gouvernement ne prendrait probablement pas ce risque.
C'est le 9 juin, donc il y a du temps.
Donc, il y a encore un peu le temps. Est-ce que après les européennes, la configuration politique sera exactement la même. Il y avait un stratège du côté, un proche du chef de l'État qui disait c'est une certitude que si les Républicains font un score raisonnable à ces élections européennes, ils auront peut-être plutôt envie de temporiser encore un petit peu et ne pas prendre le risque d'une éventuelle dissolution. Alors que si, par exemple, ils n'avaient plus rien à perdre après le 9 juin, là, peut-être serait-il tenté de provoquer ce saut dans l'inconnu.
Perrine, l'hypothèse de la motion de censure, j'imagine que ça aussi, on t'en parle beaucoup. Toi, d'après toi, il y a le compte aujourd'hui pour faire tomber le gouvernement ou on est encore très très loin ?
Ah non, je pense qu'il y a le compte. Mais j'ai presque envie de vous dire, en fait, il faudrait qu'il y ait le compte dans le sens où, attention, ce n'est pas un jugement personnel que je donne, mais moi, étant à l'Assemblée tous les jours, ça fait un an et demi que je les entends tous dire que la politique du gouvernement par-ci, la politique du gouvernement par-là, que ça suffit, que ça... Voilà. À un moment, il faut aussi que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. On ne pourra pas toujours se cacher. On entend parfois certains à gauche nous dire non, mais si c'est une motion de censure, les Républicains, nous, on ne veut pas voter une motion de censure de droite. Bon, ce sont des pudeurs de gazelle. À un moment, soit on va jusqu'au bout du raisonnement, soit on arrête de brandir la motion de censure à tort et à travers. Là où je rejoins quand même Alexis là-dessus, c'est que... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on sent, et un cadre des Républicains me le disait tout à l'heure, me le confirmait, Éric Ciotti a beaucoup bougé. Olivier Marleix, le patron des Républicains, il a toujours été un fervent opposant au gouvernement. Alors vraiment, il ne cache pas sa... On va pas dire sa haine, parce que bon, il n'y a rien de politique, mais bon, on n'est quand même pas loin de ce sentiment-là. En tout cas, vraiment, c'est un opposant très actif au sein de l'Assemblée nationale, si honnêtement, si ce n'est le plus actif pour moi aujourd'hui, et sur le fond et sur la forme. Mais visiblement, il y a quand même un retournement du côté des Éric Ciotti, qui depuis décembre reste convaincu qu'il va falloir à un moment déposer une motion de censure. Alors jusque-là, on entendait, et moi il me le disait dès le début de l'année sur le PLF, c'est-à-dire en automne 2024, en automne prochain, mais là chez les Républicains, on est en train de c'est ce que disait Alexis, de regarder en fait un peu tous les scénarios possibles. Du côté des Républicains, on se dit, voilà ce qu'on nous a dit tout à l'heure, si on fait une motion de censure en juin, avant les JO, il n'y a pas de dissolution. Le gouvernement tombe et à ce moment-là, nous, on peut peut-être rentrer au gouvernement. Et puis, autre scénario, on fait une motion de censure en automne lors du PLF. Et à ce moment-là, il peut y avoir une motion de censure. Certains quand même se disent que le gouvernement et le président de la République, surtout, ne prendraient pas le risque d'une motion de censure avec les derniers sondages qui donnent une très large majorité à Marine Le Pen. Donc ils se disent de toute façon, il n'y aura pas de motion de censure. Je pense que c'est un peu risqué comme réflexion. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont en train de réfléchir entre eux sérieusement, de se dire, est-ce qu'on pose une motion de censure quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, quoi qu'il arrive, avant le budget rectificatif, s'il y en a un, s'il n'y en a pas, c'est-à-dire à l'été ou avant l'été, est-ce qu'on en pose une au moment du budget? Mais je pense qu'effectivement, la question aujourd'hui, c'est de se dire quand est-ce que sera posée cette motion de censure, plutôt que est-ce qu'il y aura une motion de censure. Les Républicains me disaient tout à l'heure, sur la loi immigration, notre électorat n'aurait pas compris une motion de censure sur une loi immigration, mais notre électorat âgé aujourd'hui sur les finances publiques, pour eux, c'est vraiment très important de les maintenir, et ils pourraient comprendre une motion de censure face à cette déviance des dépenses publiques. Voilà ce qu'ils pensent aujourd'hui.
Merci à vous trois pour ce podcast. Donc si je comprends bien, on aura la réponse dans quelques semaines, motion de censure ou pas. Est-ce que le gouvernement va survivre à l'été ou à l'année? Et je vous dis à très vite.
À très vite.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du service politique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire. Et puis évidemment, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site bfmtv.com. À bientôt.